100% en réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour, un petit peu plus de voix qu'hier.
Un peu plus, Claire, merci. Aujourd'hui avec Jean Sévilla, une autre façon de parler de l'Ancien Régime.
On aurait bien tort de croire que l'Ancien Régime fut un temps de servilité et de dépendance. Il y régnait plus de liberté qu'aujourd'hui. Alexis de Tocqueville.
Ans d'histoire. L'Ancien Régime a disparu depuis longtemps, mais il continue de hanter notre mémoire et de diviser les historiens. Mais qu'ils en aient la nostalgie ou que, comme la grande majorité d'entre eux, ils en condamnent les injustices, ils font presque tous preuve d'anachronisme en réécrivant l'histoire du passé à la lumière de nos préjugés d'aujourd'hui. Si bien que les nostalgiques de l'Ancien Régime ont du mal à nous faire comprendre pourquoi, s'il était si solide, il est tombé en 1789, de même que les historiens qui en dénoncent les injustices ne parviennent pas à expliquer comment, si l'Ancien Régime était odieux, les Français ont pu le supporter si longtemps. Jusqu'au 21 septembre 1792, ce jour-là, la Convention renversait le plus long régime politique et social qu'ait connu l'histoire de France.
Messieurs, en ce jour mémorable où la Convention nationale, élue par tous les Français, se réunit pour la première fois, je mets aux voix la proposition du citoyen Collot d'Herbois. Proclamer à la face du monde que la monarchie est abolie en France. La motion est adoptée. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soit désormais daté de l'an 1 de la République française.
Jean Sévilla, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit chez Perrin un livre très controversé parce qu'il bouscule quelques idées reçues. Il s'en prend à ce que vous appelez l'historiquement correct. C'est d'ailleurs le titre de votre livre dans lequel il y a un chapitre consacré à l'Ancien Régime. Alors je parlais à l'instant des historiens assez rares. Il est vrai qu'ils en ont la nostalgie. C'est un peu votre cas parce que quand vous nous faites une description tellement flatteuse de l'Ancien Régime qu'on regretterait presque que la Révolution soit produite.
Un historien n'a pas à être nostalgique pour la bonne raison que l'histoire ne se répète jamais à l'identique. Donc l'Ancien Régime a disparu, il ne reviendra jamais. En revanche, face à une vulgate historique qui tente à discréditer le monde antérieur à la Révolution, je tiens à souligner ses qualités, ce qui ne veut pas dire que cet univers n'ait pas eu de défaut. Je crois que l'histoire n'est jamais manichéenne, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Vous rappelez d'ailleurs qu'aux yeux de beaucoup de Français, on ne rejette pas, ils ne rejettent pas l'intégralité de l'héritage de l'Ancien Régime, par exemple le patrimoine, son héritage culturel. On se passionne, vous le rappelez, pour la peinture de Watteau, pour la musique baroque, pour le théâtre de Molière.
Oui, justement, et pour regarder le château de Versailles, les foules qui se pressent, et la solidarité des Français quand Versailles a été abîmé par la tempête de 99. Or, on ne peut pas séparer un héritage culturel, un tel patrimoine, de l'état de société qu'il a vu naître. Il y a forcément une corrélation. Donc, si on aime le patrimoine de l'Ancien Régime, ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre quelle était la société qui l'a engendré.
Qu'est-ce que vous reprochez à la majorité des historiens d'aujourd'hui face à l'Ancien Régime, c'est de le caricaturer, c'est de l'occulter aussi peut-être, parce que vous rappelez par exemple que dans les manuels scolaires, il occupe finalement peu de place par rapport à la Révolution française qui l'a renversée.
Il occupe une place scandaleusement réduite dans les programmes officiels d'éducation nationale. Une page dans les manuels pour les deux siècles, deux siècles et demi qui vont de Henri IV à Louis XVI. C'est absurde. C'est un moment de l'histoire française, un grand moment qui a vu un grand épanouissement d'une civilisation qui fait partie de notre histoire à tous.
Et pourquoi cette portion congrue ?
Je crois qu'il y a des préjugés tenaces qui considèrent, on est toujours dans une logique anti-absolutiste, on refuse d'essayer de comprendre le mécanisme assez particulier, parce qu'il nous est tout à fait étranger, qui était celui de la société d'Ancien Régime, et ce qui fait qu'on véhicule toujours des clichés, des légendes noires sur cet univers.
Alors, en insistant sur deux choses essentiellement, le système social de l'Ancien Régime, nous en parlerons, et surtout aussi tout de suite le système politique, c'est-à-dire la monarchie, et avec Louis XIV et au lendemain de la Fronde, une monarchie qui devient absolue en 1661.
Le roi, M. Colbert, doit être l'âme unique de ses états. Pour empêcher le retour de la Fronde et gouverner, il ne suffit pas de s'appuyer sur telle personne qui ne soit plus dévouée qu'une autre. Il faut que chacun dans le royaume tienne toute chose d'un monarque, comme la nature tient toute chose du soleil. Le peuple doit être assuré de son travail et de son pain, de sorte que la misère ne le pousse pas dans les bras de nouveaux frondeurs. Quant à la noblesse, je veux que de nouveau elle attende tout du roi, privilèges, honneur, argent. Pour cela, nous la tiendrons continuellement en notre présence et ferons en sorte qu'être éloigné de nous soit pour elle un plus grand malheur que l'exil.
Prenez garde, sire, que les dépenses ne soient grandes.
Voilà les desseins de ma politique. Êtes-vous disposé à les servir ?
De toute mon âme, sire.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui l'Ancien Régime.
Et c'était Lully à l'époque de Louis XIV, à l'époque où Louis XIV, d'ailleurs, en 1661, après la mort de Mazarin, décidait de gouverner seul, on l'a entendu, d'exercer autrement dit un pouvoir sans limite, un pouvoir absolu. Or vous dites, vous Jean Sévillia, que même sous Louis XIV, il n'y avait pas d'absolutisme, d'abord parce que le mot n'existait pas.
C'est un mot qui a été forgé pendant la Révolution pour vilipender les institutions antérieures et justifier le fait de les avoir abattues. L'absolutisme, il y a un contresens fondamental, non, et vous l'avez repris, excusez-moi, Patrice Gélinet, vous avez dit c'est une monarchie sans limite, mais non. La monarchie de l'Ancien Régime connaît beaucoup de limites qui sont inscrites dans la société. La société, la monarchie absolue, c'est une monarchie qui n'a pas de lien. Absolutus, ça vient du latin absolutus, qui veut dire ça vient d'absolvere, qui veut dire dissoudre. C'est-à-dire que c'est une monarchie où la souveraineté de l'État est en effet concentrée dans la personne d'un homme. Mais en même temps, et c'est aussi ça que nous avons du mal à comprendre, c'est que cet État est très limité parce que il y a des pouvoirs sur la société que le roi n'a pas.
Alors justement, prenons-les tels que vous en parlez dans votre livre, Jean Sévillia. D'abord, vous dites que le droit divin, qui pourtant sert à justifier l'absence de contrôle, puisque le roi n'a de compte à rendre qu'à Dieu, c'est une limite. Pourquoi est-ce que c'est une limite pour le roi de France ?
Mais c'est une limite parce que le roi de France croit en Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui est une société peu religieuse, et on a du mal à comprendre cela, mais dans une époque qui est une époque religieuse, les gens qui sont chrétiens croient réellement qu'après leur mort, ils auront des comptes à rendre à leur créateur, c'est-à-dire à Dieu.
Oui.
Et le roi de France vit, si. Le roi de France, tous les signes, on en a de multiples traces.
Mais il y en a d'autres. J'en sais bien, je vous coupe simplement. Il croit en Dieu, mais il se passe largement de ses commandements. La vie de Louis XIV n'était pas très catholique.
Oui, mais il s'en est repenti à la fin de sa vie.
Oui,
je veux dire,
bon,
il savait qu'il avait des comptes à rendre et le droit divin, et c'est une notion qui donne des limites dans la mesure où le roi se considère comme un pécheur lui aussi, il sait qu'il devra se justifier de ce qu'il a fait.
Ça n'a pas été le cas de tous les rois de France. Prenez le cas de Louis XV aussi. Hein. Je parlais de la vie de Patachon de Louis XIV. Louis XV, c'était pas mal non plus.
Oui, mais
le droit divin, c'était quand même assez commode.
Non, mais le droit divin était limité par les pouvoirs qui étaient ceux de la société sur lesquels le roi ne pouvait rien.
Alors, il y en avait d'autres. Hein. Vous le mentionnez, par exemple, ce qu'on appelle les lois fondamentales. De quoi s'agit-il, Jean Sévillard ?
C'est ce qui organisait c'était la constitution, en quelque sorte, de l'époque. C'est-à-dire l'organisation de la succession à la couronne. Ces règles s'imposaient au roi. Il ne pouvait pas les modifier. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas choisir son successeur, qui était son fils, normalement. Et puis, le roi ne pouvait pas aliéner le royaume. C'est-à-dire que le roi ne pouvait pas vendre ou se séparer d'une province.
Mais que fait Louis XV quand il abandonne le Canada?
Le Canada, à ce moment-là, n'était pas encore une province vraiment agrégée au royaume. C'était une colonie, si vous voulez. On n'est pas. Et donc, toutes ces lois fondamentales s'imposent au roi. Il n'a pas la possibilité de les modifier. Mmh. Et puis, le roi, il ne gouverne pas tout à fait seul. Il a des ministres. Ses ministres délibèrent entre eux. Le roi ne peut pas toujours outrepasser.
Oui, mais il les chasse quand il ne leur convient pas à Fouquet, au moment où précisément Louis XIV prend le pouvoir, il embastille, enfin il n'était pas la Bastille, mais enfin il met en prison Fouquet.
Fouquet
qui avait confondu
les caisses de l'État et un peu ses propres intérêts.
Oui, mais je veux dire par là, il dispose lui-même de la
voix de ses ministres. On voit aussi de nos jours, d'ailleurs.
Donc ses ministres sont plutôt un peu à sa botte, on a entendu.
Non, les ministres ne sont pas à la botte. Les ministres ont un pouvoir tout à fait important. Et puis, on ne chasse pas un ministre. Aujourd'hui aussi, on change les ministres, dans la Ve République.
Bon, ils sont pas responsables, en tout cas, devant le Parlement. Or, vous le rappelez, autre limite, c'est qu'il y a des parlements. Bon, c'est pas tout à fait comme nos parlements d'aujourd'hui, et des parlements qui enregistrent les lois et qui peuvent même adresser des remontrances, qui ont un droit de remontrance vis-à-vis du roi. Donc c'est une autre limite, Jean Sévillard.
C'est une autre limite et qui est particulièrement faute du fait que ces parlements sont constitués de magistrats qui sont inamovibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur ôter leur charge. Et donc le roi est obligé de passer par eux pour faire accepter les lois, puisque le roi signe la loi, mais la loi, pour être valable, doit être avalisée par les parlements.
Oui, mais là, c'est comme un peu les ministres. Les parlements, par exemple, un roi peut le dissoudre. C'est ce qu'a fait Louis XV, vous le dites vous-même dans votre livre.
Non, il ne peut pas dissoudre les parlements. Il éloigne les parlementaires. On est dans un autre système constitutionnel, mais il ne peut pas ôter leurs charges. Ce sont des propriétés personnelles qui appartiennent aux magistrats. C'est leur patrimoine personnel. Et le roi ne peut pas. Il a éloigné les parlementaires, c'est-à-dire, mais il n'aura pas supprimé leur pouvoir, si vous voulez. Et c'est un autre mode d'organisation sociale. La société d'Ancien Régime, une société de corps, une société communautaire où, on en dira peut-être dans un instant, mais il y a des privilèges.
Oui. Alors bon, il y a aussi autre pouvoir, vous le citez peu d'ailleurs, hein, Jean Sévillard, mais qui peut limiter les pouvoirs du roi, c'est tout simplement les états généraux. Ils apparaissent en 1302, je crois, à l'époque de Philippe le Bel, mais là encore, il ne peut les convoquer que selon son bon plaisir. Hein. C'est aussi un mot sur lequel vous faites des développements. Mais prenons le cas, par exemple, des états généraux de 1789. Ils n'avaient pas été convoqués depuis 1614, c'est-à-dire en 75 ans, jamais. Les états généraux n'ont jamais été convoqués.
Oui, ils n'ont plus été convoqués.
C'est une limite théorique, là encore.
Ça n'est pas une limite parce qu'il n'y a pas que les États. On raisonne en termes constitutionnels, si vous voulez, mais il y a tous les pouvoirs de la société. La société d'Ancien Régime est corporée, c'est-à-dire que les provinces ont des pouvoirs, les métiers ont des pouvoirs, les professions ont des pouvoirs. L'ensemble de la société dispose d'une organisation qui fait que l'État ne peut pas empiéter sur son domaine. C'est quelque chose de tout à fait incompréhensible, difficile à comprendre aujourd'hui, où l'État, notre État, peut quasiment tout. L'État d'Ancien Régime est limité.
Alors ce qui est exact, vous le rappelez, Jean Sévillard, que c'est que même au pire temps de la Fronde, par exemple, jamais le pouvoir royal n'a été contesté, même en 1789, lorsque dans les cahiers de doléances, les Français se plaignaient non pas du système politique, mais du système social de l'Ancien Régime.
Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maire.
Oui, il a raison.
Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies?
C'est ça,
oui.
Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre.
C'est vrai, c'est vrai.
Si vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire.
Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés?
Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier? Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques.
ecclésiastique.
Parfaitement.
Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins ?
Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous.
La liberté aussi !
C'était un autre extrait du film La Révolution française de Robert Henricot, la rédaction des cahiers de doléances qui en 1789 dénonçait presque tous les inégalités entre les trois ordres, le clergé, on rappelle, la noblesse et le tiers état. Dont deux ordres, les deux premiers étaient des ordres privilégiés. Vous rappelez, Jean Sévillat, que ces privilèges en fait avaient une contrepartie quand ils ont été accordés. Par exemple pour le clergé.
Le clergé est évidemment une force religieuse d'abord, et il occupe une place tout à fait considérable dans le monde d'Ancien Régime, mais le clergé est aussi une force sociale. On a oublié, et cela aussi parce que nous sommes dans une société laïcisée, mais l'Église était une puissance sociale, et un certain nombre de fonctions aujourd'hui qui sont remplies par l'État, la santé, l'éducation nationale, la culture, eh bien ce sont des fonctions sociales qui à l'époque étaient assurées par l'Église. Les grands hôpitaux parisiens, ceux d'aujourd'hui, ont tous été fondés avant la Révolution par des congrégations religieuses. L'Église assurait l'enseignement primaire qui était tout à fait important. L'Église à peu près 50 à 60% des hommes savaient signer, écrire, compter avant la Révolution, et ça c'était une fonction sociale assumée par l'Église. L'enseignement secondaire était aussi assuré par l'Église. Donc là la contrepartie en effet des privilèges fiscaux de l'Église, eh bien, c'était le service qu'elle rendait à la société.
Même chose, dites-vous, pour la noblesse. C'est un autre service, mais par exemple, si la noblesse est dispensée de la plupart des impôts, c'est parce qu'elle est la seule à payer l'impôt du sang, c'est-à-dire qu'elle est la seule à servir, en tout cas, au rang d'officier, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'il y a des soldats qui sont des roturiers et qui sont obligés de le rester, d'ailleurs, parce qu'ils sont pas nobles. Mais c'est là, au fond, c'est l'aspect militaire, la fonction militaire de la noblesse justifie, dites-vous, ses privilèges.
Oui, les hommes de troupe dont vous parliez, ce sont des soldats qui s'engagent et qui reçoivent une solde. Les officiers, en effet, c'était l'encadrement militaire. Une époque où il n'y avait pas de service militaire, eh bien, c'était la noblesse qui versait son sang et qui l'a versé de façon abondante, parce que les guerres d'Ancien Régime, si elles étaient moins meurtrières et beaucoup moins que celles qui sont survenues à partir de la Révolution et à partir de Napoléon, eh bien, ce sont des guerres qui ont tué, et bien des familles ont été endeuillées à cette époque. La noblesse a versé son sang. Et puis la noblesse, quelle noblesse ? Mais il y a une grande noblesse, celle qui est à Versailles, et puis aussi des petits nobles. On en voit des noblaillots en Bretagne, par exemple, qui labourent eux-mêmes leurs champs, l'épée au côté.
Mais justement, vous le rappelez vous-même, Jean Sévillat, à un moment donné, au fond, en échange de ses privilèges, la noblesse ne donne plus grand-chose. Le XVIIIe siècle est une époque où le nombre des guerres diminue. En tout cas, cette noblesse est plutôt cantonnée à la cour. Là, il n'y a plus la contrepartie qui lui permettait de justifier l'absence d'impôts. Cette noblesse, au fond, elle se distrait à la cour. D'ailleurs, on dit souvent qu'elle coûte cher. Est-ce que c'est vrai ?
Non, en volume, c'est une les pensions que verse le roi aux nobles qui ne peuvent pas survenir à leurs besoins représentent un tout petit volume du budget de l'époque. Il est vrai que à partir du 1750 à peu près, eh bien la noblesse ne remplit plus la fonction sociale qu'elle jouait auparavant, parce que le processus de constitution de l'État a fait qu'elle devenait une puissance sociale en partie caduque, et il y aura en contrepartie une réaction nobiliaire, c'est-à-dire que les nobles vont se crisper sur des droits qui sont des droits qui sont caduques, et ça va être une des causes secondaires de la Révolution française, parce que cette réaction va provoquer un mécontentement.
Alors ces deux ordres dont on parle, en fait, ils ne prennent qu'une toute petite place dans l'ensemble de la population française, en bas de l'échelle. Enfin, pas toujours, parce qu'il y a une bourgeoisie très riche, mais il y a le tiers-état qui, lui, en revanche, dont vous dites au fond qu'il se satisfait plutôt de tout ça, qu'il n'est pas si malheureux qu'on l'a souvent dit. Pourtant, lorsqu'en 89 il se révolte, parce que c'est essentiellement de lui que vient la révolte, bah c'est la misère quand même en France. Il y a eu des moments noirs à la fin de l'époque de Louis XIV ou à la fin du XVIIIe.
Non, il y a eu des périodes de disette, comme dans toutes les sociétés rurales, les sociétés agricoles dépendent des aléas climatiques. C'est une période où on ne connaît pas encore les techniques modernes agricoles, et donc on a du mal à constituer des stocks, etc. Donc il y a eu des disettes, en effet, dans les les périodes où il y a eu des aléas climatiques, mais la paysannerie, après au milieu du 18e siècle, est une paysannerie qui s'est enrichie, qui possède à peu près 40% du sol français, et il y a même une paysannerie qui est très riche, dont nous voyons encore les vestiges chez nos antiquaires quand nous voyons des belles armoires paysannes du 18e siècle. Eh bien, ce sont les témoins d'une classe paysanne qui a acquis une prospérité certaine.
Et qui représente l'immense majorité des Français, comme l'ensemble d'ailleurs du tiers-État, qui aux États généraux, en revanche, ne représente que la moitié des députés, seulement le tiers des voix, quand ces États généraux, les trois ordres, sont convoqués par Louis XVI le 2 mai 1789.
Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin.
Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que Sa Majesté a souhaité entendre votre avis.
Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir ?
Comment les députés du tiers-État, monseigneur.
C'est quoi le tiers-État ?
Français. Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres.
Incomparable. Cela fait beaucoup de monde.
C'était la séance d'ouverture des États généraux dont la réunion allait provoquer, on le sait, la Révolution française. Une question toute bête, Jean Sévilla. Pourquoi, si les Français, comme vous le dites dans votre livre, se sont résignés, ont accepté l'Ancien Régime, pourquoi est-ce qu'ils l'ont renversé en 89?
C'est une minorité qui l'a renversé et il se trouve que les privilégiés, c'est-à-dire les parlementaires, ont fait obstacle au processus de modernisation qui avait lieu au cours du 18e siècle. Les privilégiés ont empêché la réforme de l'impôt, la réforme de l'égalité devant la loi. Et ce qui fait que l'Ancien Régime a échoué à achever de constituer un État moderne. Maintenant, au tout début de la Révolution, si on avait pu faire un État des lieux, et on l'a à travers les cahiers de Léance, la population n'est pas tournée contre la monarchie, elle veut des réformes. Ces réformes, la monarchie les a voulues sous Louis XV, en partie sous Louis XVI, mais il y a eu un mouvement de blocage des élites qui a fait que ces réformes n'ont pas pu aboutir et ça a provoqué un mécontentement immense qui a provoqué la monarchie.
C'est une faiblesse de la monarchie, elle était incapable de faire les réformes qui auraient permis de la sauver.
Parce qu'elle était respectueuse du droit, oui. Ouais. C'était paradoxalement, ce n'était pas un État tyrannique parce que c'était un État respectueux du droit qui n'a pas voulu ôter aux privilégiés ce qui était devenu des droits acquis pour eux.
Alors c'est à partir en tout cas du moment où il tombe que la monarchie devient l'Ancien Régime et c'est depuis 200 ans ce qui divise les historiens, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, c'est au XIXe siècle, l'historien Tocqueville affirme que le mot « Ancien Régime » est apparu en 1790. Moins d'un an après que la Révolution était commencée, dit-il, Mirabeau écrivait au roi « Comparez le nouvel état des choses avec l'Ancien Régime ». Ah, en France, au XXe siècle, quand on parle d'Ancien Régime, on a deux grandes tendances, en très très gros quand même, qui cohabitent. La révolutionnaire qui magnifie 1789 et justifie la terreur, et la réactionnaire qui regrette le doux royaume de France et son bon roi catholique, bien sûr. Alors, sa dernière vision, on la trouve très clairement chez des historiens comme Pierre Gaxotte ou François Bluche, par exemple. Alors, Gaxotte, un académicien français, qui fut aussi, avant-guerre, on peut le rappeler, un disciple de Maurras et le créateur de l'hebdomadaire d'extrême droite « Je suis partout ». Alors, dans son livre « La Révolution française », il donne cette définition de l'Ancien Régime. C'était un très grand édifice qu'avait bâti 50 générations, embrassant plus de 1500 ans. Quelques parties abandonnées menaçaient ruines, d'autres étaient incommodes, d'autres trop luxueuses. Mais, somme toute, l'ensemble était cossu, la façade avait grand air, on y vivait mieux et plus nombreux qu'ailleurs. Les fondations les plus anciennes et les plus profondes étaient l'œuvre de l'Église. En l'historien François Bluche l'affirme aussi, la France de 1789 est le pays le plus opulent qui soit au monde.
La douceur de vivre est quotidienne et presque générale. Alors me direz-vous pourquoi la révolution, peut-être juste une étourderie ? En ce bouleversement brutal aurait pu être économisé, affirme Bluch. Moins de privilèges, plus d'égalité, la terre aux paysans. Avec ce programme, l'ancien régime eût été reconduit. Mais problème, il ne l'a pas fait. Un changement de regard. Voilà par exemple comment, dans les années 20, un des grands historiens de gauche de la Révolution, Albert Mathiez, parle de l'ancien régime. Les paysans sont les bêtes de somme de cette société. Dîmes, cens, corvées, impôts royaux, toutes les charges s'abattent sur eux. Les pigeons et le gibier du seigneur ravagent impunément leurs récoltes. Ils habitent des maisons de terre battue, souvent couvertes de chaume. Ils ne connaissent la viande que les jours de fête. Dans cette lignée, les historiens marxistes changent de langage et voient dans l'Ancien Régime un monument lézardé, miné dialectiquement par la montée de la bourgeoisie. L'Ancien Régime ne meurt pas par accident, affirme Michel Vauvel. Crise et durcissement du système féodal, lézard dans l'édifice de la société d'ordre, valeurs rejetées du système absolutiste ne prennent telle valeur que parce qu'une autre France est en train de naître, de l'évolution des forces et des rapports de production. Mais alors tout de même, il faut le rappeler, il y a longtemps qu'en France et ailleurs aussi, beaucoup d'historiens parlent de l'Ancien Régime avec amour et sans nostalgie.
Vous êtes plus proche, vous, des deux historiens, de Gaxotte et de Bluch, que de Vauvel et de Mathiez. De Mathiez, j'en sais bien, cela dit, il y a des gens, vous le dites vous-même, pour défendre l'ancien régime. Il y en a eu dans l'histoire, chez les historiens.
Oui, je crois qu'il y a des grands savants qui montrent que cet univers est un univers très complexe, qui a eu ses grandes qualités. Là encore, je le disais au début de l'émission, les foules qui se pressent à Versailles sont dans un palais qui a été la gloire d'une époque et qui est aussi le reflet d'un système sociopolitique.
Cela dit, il faut reconnaître que, si, comme vous le disiez, c'est une minorité qui a voulu la révolution. Aujourd'hui, plus personne n'a envie de revenir, ou une très petite minorité de Français a envie de revenir dans l'ancien régime, même s'il faut reconnaître qu'on l'a longtemps caricaturé. En tout cas, il est bon, comme vous le faites dans votre livre, et comme le permet d'ailleurs la République et la radio de service public, de donner, comme vous le faites, Jean Sévillia, un autre point de vue sur l'ancien régime. Vous le faites donc dans un chapitre de votre livre, Historiquement correct, publié chez Perrin. Et vous êtes également, je le rappelle, l'auteur de Le terrorisme intellectuel, publié également chez Perrin, et dans la collection Timpus. Vous avez pu entendre des extraits des films suivant, La Révolution française, Les Allées Lumière de Robert Enrico, distribué par Ariane Vidéo, et La prise du pouvoir par Louis XIV de Roberto Rossellini. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation Virginie Bloch-Lenné, Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain dans 2000 ans d'histoire.